Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. J'ai une heure pour vous montrer qu'il y a autour de nous des gens qui innovent, des gens qui créent et qui font bouger les choses en France. Le congrès international d'esthétisme s'ouvre demain à Paris. L'occasion de s'intéresser ensemble aux nouvelles techniques qui se développent et aux tendances qui émergent. Et vous allez voir que les Français sont dans la course. Elle existe depuis 1677. Son rôle, réjouir nos papilles depuis 4 siècles. Merthe, spécialité lilloise de la gaufre, le spécialiste lillois de la gaufre et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez faire une bonne action sans rien débourser, c'est possible grâce à une nouvelle entreprise sociale. Vous achetez en ligne et Prizl se charge du reste. C'est la solution, c'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, on vous attend comme chaque jour. Venez nous rejoindre, Justine. Aujourd'hui, on parle esthétique et vous allez voir que les techniques ont beaucoup évolué, parfois sous l'impulsion de Français.
Exactement. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous en avez testé? Eh bien, venez nous le dire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou alors au 39-21, 50 centimes la minute.
Et pour accueillir nos invités à mes côtés comme chaque jour, Elisabeth Assayagela, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Eric Léandre, PDG et fondateur de Quant. Bonjour Eric.
Bonjour.
Le 49e congrès international d'esthétisme s'ouvre demain à Paris. Vous vous dites peut-être ça n'est pas pour moi. On va parler chirurgie esthétique, technique qui coûte cher. Eh bien non, détrompez-vous. L'image de soi, ça concerne tout le monde parce que c'est aussi le reflet de l'estime de soi. Bonjour Isabelle Hébérard.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du CODES, le CODES pour cours d'esthétique à option humanitaire et sociale. Je crois que c'est une esthéticienne qui l'a créée à Tours en 1978, Renée Rouzière,
oui,
c'est bien ça?
Exactement.
Et alors son idée, c'était justement de se tourner vers des publics abîmés, quels qu'ils soient?
Oui, tout à fait. C'était de créer donc ce métier, la socio-esthétique, qui est la pratique de soins esthétiques spécifiques auprès de personnes fragilisées par la maladie ou par les aléas de la vie, des hommes, des femmes, quel que soit leur âge et leurs conditions.
Et alors c'est comme ça qu'est née la toute première formation. Elle est allée voir des personnes qui étaient hospitalisées et on a oui, petit à petit adapté finalement la pratique esthétique à ce public-là?
Tout à fait. Elle a proposé d'abord ses services bénévolement, en psychiatrie à l'hôpital de Tours, également à la maison d'arrêt de femmes de Fleury-Mérogis. Et les professionnels ont rapidement été convaincus des effets bénéfiques des soins esthétiques pour ces publics fragilisés. Et Renée Rouzière s'est aperçue également de l'importance en fait d'une formation pour les esthéticiennes qui souhaitaient pratiquer auprès de ces personnes fragilisées pour à la fois adapter en fait leur pratique esthétique aux problématiques, aux pathologies et avoir les bons gestes et la bonne écoute et également aussi pour être crédible vis-à-vis des professionnels.
Ça veut dire que de son expérience personnelle, elle s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire au-delà de moi, essayer de mettre en place une formation, une filière,
oui,
hein, carrément.
Oui. C'est exactement ça. Donc c'est comme ça qu'elle a choisi de créer le CODES, cette association qui existe donc depuis maintenant 40 ans et qui a pour vocation à la fois de former des esthéticiennes professionnelles et diplômées à la socio-esthétique, mais aussi qui est engagée pour la reconnaissance et le développement de ce métier.
Elisabeth, alors il existe, on vient d'en parler, des diplômes de socio-esthétique, ça a été reconnu assez tard, hein, je
mais
crois.
Mais oui, il a fallu attendre 2007 pour que le titre soit reconnu par l'État. Les premiers diplômes de socio-esthétique datent des années 60 hein, par le CODES. Et puis donc, il a fallu attendre 2007. Depuis, il existe hein, des formations un peu partout en France.
Il y a un institut qui vient tout juste d'être créé aussi en France qui justement met en place des soins esthétiques pour les patients en rémission de cancer.
Tout à fait. Hein, c'est un centre totalement gratuit pour les patients. Il est situé à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Ça s'appelle l'Institut Raphaël. C'est un institut qui est assez unique en France, hein, qui accueille des patients en rémission pour qu'ils se remettent à faire du sport, à mieux s'alimenter, pour qu'ils reprennent conscience de leur corps hein, et qui c'est bon pour l'estime de soi. Et parmi tout ce qu'ils proposent pour l'après-cancer, il y a un salon d'onco-esthétique, parce qu'on le sait, les effets secondaires des traitements sont lourds, hein, ce sont des pertes de cheveux, des cils, des sourcils, des ongles abîmés, et ces soins aident la personne à garder une bonne image de soi et de ne pas être réduite seulement à la maladie.
Isabelle Hébérard, vous réapprenez aux gens tout simplement à prendre un miroir et à se regarder dedans.
Oui, exactement. Il est vraiment question de retrouver confiance en soi, estime de soi, une meilleure image et de se reconnaître de nouveau, effectivement, dans le miroir, de se réapproprier son corps. Comme vous le disiez, les effets, là, vous avez parlé des effets
du cancer,
qui sont très impactants. Donc, il y a vraiment le rapport au corps est bouleversé. Et la socio-esthéticienne, grâce à ses conseils, à sa pratique, à son écoute, à son toucher bienveillant, ça, c'est également très important.
Elle va aider le patient à se réapproprier son
corps. Voilà, elle va accompagner les patients pour que, alors ils anticipent les effets secondaires, qu'ils trouvent des solutions, mais aussi tout à fait qu'ils se sentent mieux, plus en phase avec leur image, et ainsi qu'ils soient aussi plus à même à affronter le traitement, ses conséquences.
Et que dit notre coach de cette initiative qui date quand même de 1978
hein ? Oui.
Vous êtes basé où ?
À Tours. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Donc,
et les cours, c'est seulement à Tours ? Vous avez
non, alors voilà, en fait, donc ça c'est un point également important. L'association a été créée à Tours, donc elle est installée, elle est hébergée au sein de l'hôpital de Tours, ce qui permet en fait aux élèves esthéticiennes d'avoir accès aux services hospitaliers et aux structures attenantes.
Et de mettre en pratique directement.
Directement. Il y a également les hôpitaux de Saint-Maurice en région parisienne qui sont aussi partenaires, donc on y pratique aussi un module. Et également en fait la Fondation L'Oréal est très engagé aussi pour apporter accès, en fait.
Et vous vous faites connaître comment aujourd'hui ?
Alors, on se fait connaître, on est vraiment très heureux et reconnaissant de votre invitation à cette émission, parce que
on
c'est
est ravis d'être avec vous
par ce type d'action. Alors, on a un congrès, en fait, on organise chaque année depuis 2012 un congrès national de la socio-esthétique à Paris, à l'Institut Pasteur, qui réunit l'ensemble des professionnels et des partenaires.
Mais on parlait des publics abîmés, on parlait des personnes dans les hôpitaux, on parlait des personnes en prison. Il y a aussi tout un pan auquel on ne pense pas forcément, mais qui est aussi votre public.
Oui.
Toutes les personnes abîmées par la vie, qui sont dans la rue, qui sont dans les centres et qui ont besoin aussi
tout à fait.
Travailler leur image.
Exactement. La grande précarité, les addictions, le chômage. Enfin,
l'alimentation aussi.
L'alimentation, voilà, tout ce qui peut vraiment toucher la personne et lui faire perdre cette estime d'elle-même.
Comment est-ce que vous allez vers ces publics-là ?
Voilà, alors via des associations. Voilà, en fait, on démarche nous aussi des associations pour leur faire connaître la socio-esthétique, leur expliquer comment mettre en place cette action, parce qu'il faut vraiment que la socio-esthétique s'intègre au parcours d'accompagnement social qui est mis en place pour ces personnes-là, en fait.
Avec des diplômes, une vingtaine de jeunes qui sortent de chaque promotion, hein, c'est ça ?
Oui, voilà. Alors c'est vrai que la notion de diplôme est très importante.
Enfin, jeune ou moins jeune d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui. Comme vous le disiez, donc c'est un titre professionnel qui est reconnu par l'État, qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
Je crois que c'est un an de formation, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Mais il faut avoir déjà une expérience professionnelle au préalable.
Exactement. Voilà. Donc nos élèves sont des esthéticiennes diplômées et expérimentés qui souhaitent à un moment donné exercer leur métier autrement auprès donc de ces personnes fragilisées. Mais pour ça, elles vont devoir en fait apprendre à adapter leur pratique esthétique et aussi à comprendre les problématiques des différents publics qu'elles vont être amenées à accompagner. D'où l'importance de cette formation.
On reste ensemble, on continue à parler nouvelles techniques en matière d'esthétisme aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Les soins évoluent, les demandes aussi. Hier, utilisée sur les sportifs, la cryothérapie se démocratise. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin. Et ce vendredi, Raphaël, on s'intéresse aux nouvelles techniques françaises dans l'esthétisme avec vos invités. Mais pas que, on vous attend, vous aussi, au standard d'Europe 1, le 3921 ou alors sur europe1.fr.
Vous avez probablement tous entendu parler de la cryothérapie, c'est-à-dire la thérapie par le froid. C'est une méthode qui a, ces dernières années, beaucoup été utilisée, notamment par les sportifs de haut niveau, mais qui aujourd'hui s'ouvre à de nouveaux publics. Bonjour Germain Kemp.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Cryo Evolution, premier fabricant français de cabines de cryothérapie corps entier. Alors corps entier, on va préciser, parce qu'il y a plusieurs techniques. Vous avez des cabines où la nuque est prise en compte, contrairement à la plupart des cabines où on s'arrête en fait aux épaules.
Exactement.
Vous avez créé ce système-là parce que vous étiez au départ un spécialiste du froid, vous étiez frigoriste. Vous avez notamment beaucoup travaillé avec l'établissement français du sang, c'est-à-dire que vous connaissez vraiment ce secteur de la santé.
Exactement. C'est-à-dire que ça fait maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années en totalité que je travaille dans le domaine du froid. Je me suis spécialisé au fur et à mesure sur des froids un peu plus spécifiques liés au domaine du laboratoire et de la santé, ainsi que de l'industrie. Et là-dessus, j'ai décidé de créer tout simplement Cryo-Évolution parce que le domaine de la cryothérapie est un domaine très intéressant en soi. Ça a vraiment un côté bénéfique pour toutes les personnes. Donc ça va toucher, vous le disiez, donc les sportifs, mais ça va toucher aussi le bien-être et l'esthétique, ainsi que la santé. Donc c'est une thérapie, c'est quelque chose qui est 100% naturel, qui est à la portée de tous.
Oui, il faut faire attention quand même, effectivement, parce qu'il y a des publics pour lesquels ça n'est pas conseillé, hein, on va quand même le dire. Vous, quand vous vous lancez dans cette aventure, comment vous faites ? Vous cherchez à fabriquer la machine dans laquelle on va entrer, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. On passe à moins 110, parfois moins 160 degrés, hein, à l'intérieur de cette cabine. Comment vous faites pour arriver finalement à créer le module ?
Alors, de base, donc comme vous l'avez dit, c'était mon métier. Donc en fait, j'étais spécialisé dans la conception de matériaux sur mesure et j'ai analysé ce qui existait sur le marché.
Ce qui n'allait pas.
Voilà, et j'ai analysé surtout le principe physiologique de la cryo corps entier. Comment est-ce que le corps réagissait et le pourquoi. Et donc, de cette base, j'ai fait table rase de tout ce qui existait et j'ai créé de A à Z un produit qui répondait aux exigences des professionnels de santé pour avoir les meilleures réactions vis-à-vis de la cryothérapie corps entier.
On est en 2016, c'est ça, quand vous concevez votre cabine ?
Oui, alors quand on a créé la société, oui, mais auparavant.
Vous avez commencé à y réfléchir avant.
Exactement.
Il y a un peu plus de recherche. Tout est fabriqué ici, en France. Hein.
Oui, exactement. C'est-à-dire que là-dessus, on met un point d'honneur à mettre vraiment le Made in France en avant. Donc, on a une partie qui est faite par notre société, qui est fabriquée donc, chez nous en Seine-et-Marne. Et il y a différents prestataires
qu'on va faire travailler. Partie en Bretagne aussi.
Exactement. Donc là, ça va être pour plus les chambres. Donc, on va faire des cabines, comme vous le disiez, avec un système qui va refroidir donc de toute l'arrière de la tête et jusqu'aux pieds. Et on va faire aussi des chambres où là, ça va être plus donc, de l'électrique, à savoir que les cabines vont fonctionner.
Où là, on passe dans une première chambre où on est à moins 50, puis ensuite dans une seconde où on est à moins 110. Hein,
exactement.
C'est ça. Que dit notre coach de ce système, de cette démocratisation aussi, de ce produit français ?
En fait, moi, j'étais plus intéressé sur comment tu as réussi à financer ta cabine au début, comment tu fais maintenant et comment tu vas pouvoir garantir
développer.
Le Made in France et le développer. Ça vaut sûrement très cher, une cabine corps entier où on est congelé et on sort vivant quand même. Donc, vas-y.
En effet, ça coûte cher, surtout à la fabrication, c'est-à-dire qu'on s'est aligné sur les prix du marché. Mais on fait un pari sur l'avenir et sur la quantité de produits, sur la qualité de nos produits, donc en France et notamment à l'étranger. Donc, au début, on a été aidé notamment par la French Tech et la BPI et avec des investisseurs privés. Et au fur et à mesure, on s'auto-investit à l'heure actuelle et on va faire appel dans les mois à venir à des investisseurs privés pour étendre le marché.
Comme quoi, la French Tech, ça mène à tout là.
Oui, c'est plutôt pas mal.
Justement, pour rebondir, vous avez un problème pour positionner vos cabines sur le marché ou pas du tout en termes de prix parce que la plupart viennent des pays de l'Est, hein, je crois. Il y a aussi une question de normes, de directives européennes. Vous êtes dans les clous. Est-ce qu'elles le sont toutes aujourd'hui ?
Alors non, justement, c'est un des gros soucis qu'il y a à l'heure actuelle sur le marché. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de monter dans cette structure. En fait, c'est tout simplement pour vraiment bien communiquer vis-à-vis des utilisateurs finaux pour dire attention, il y a des bons produits, il y a des produits sur lesquels il ne faut pas aller, il y a des produits de qualité, des produits de moins bonne qualité.
Elisabeth, c'est un sauna à l'envers, hein,
c'est ça.
La cryo.
Ben, c'est exactement ça, c'est un sauna à l'envers qui était importé du Japon dans les années 2000, hein, tout de même. Hein.
C'est assez récent.
Alors d'abord, ça a été utilisé en récupération sportive, mais maintenant, on sait que ça peut aider à la récupération après le sport, au raffermissement de la peau, mais pas seulement. La cryothérapie du corps entier peut avoir des effets plus importants. Il y a des patients atteints de sclérose en plaques ou de fibromyalgie qui exposent leur corps à un froid extrême et là ils voient aussi leur souffrance s'atténuer ou s'apaiser.
Oui, et on ne l'a pas précisé, mais évidemment, ce sont des durées extrêmement courtes. Hein. C'est pour ça qu'on ne ressort pas congelé.
À moins 110 degrés pour le corps entier, je crois que c'est un quart d'heure, c'est ça ?
Non, pas du tout. On va être sur trois minutes et on est sur un froid extrêmement sec. Donc en fait, ça équivaut.
C'est ça, c'est le sauna à l'envers.
Si vous sortez dehors en maillot de bain à 0 degré, vous aurez plus froid que si vous faites une séance de cryothérapie.
Et on protège évidemment la bouche, les oreilles, les mains, les pieds,
les extrémités.
On reste ensemble, on continue à parler esthétisme aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et dans l'esthétisme, il y a des modes et la tendance du moment, c'est le regard. Une Française a depuis 10 ans investi ce créneau et vous allez voir, ça marche. À tout de suite.
La France bouge, c'est de 13h à 14h avec vous, Raphaël Duchemin. Et alors, on se rend compte aujourd'hui avec vos invités que la France innove tous les jours en termes d'esthétisme. Alors justement, vous avez entendu parler de nouvelles techniques, vous êtes dans ce milieu, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou alors au 3921.
Et alors, dans un visage, Justine, il y a deux choses que l'on voit en premier, le sourire et le regard. Bonjour Florence Témim.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice du Boudoir du Regard. Ça fait 10 ans que vous avez complètement changé de vie pour créer ce concept, parce que c'était pas du tout votre métier à la base.
Ah non, pas du tout, non. Je venais de l'informatique, donc ça n'avait aucun rapport.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous donne envie de tourner une nouvelle page?
D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de tourner une nouvelle page, passer la quarantaine. Moi, j'en rencontre plein et j'étais passionnée par l'esthétique, par le monde de la beauté. Et je pensais qu'à l'époque, il manquait vraiment quelque chose pour les sourcils.
Donc, alors, vous partez d'un constat assez simple, effectivement, c'est que c'est difficile de trouver la bonne personne pour refaire une ligne de sourcil, pour avoir le sourcil finalement idéal, hein, celui qu'on a envie d'avoir.
Alors aujourd'hui, c'est moins difficile parce qu'on existe, mais en tout cas, 10 ans en arrière, c'était très difficile. Ça n'est pas enseigné, donc une ligne de sourcil, on ne sait pas comment la faire. Les esthéticiennes ne savaient pas comment la faire. Et il fallait donc trouver des nouvelles méthodes, des nouveaux protocoles pour pouvoir redonner un regard à toutes celles qui l'avaient perdu. Parce que quand les sourcils ne poussent plus ou qu'on les a trop épilés, on a un regard qui peut nous faire paraître triste, fatigué, plus vieille. Donc, on a besoin de tout ça pour revaloriser notre image. On est dans un monde d'images.
Et à l'époque, il n'y a pas de formation?
Il n'y a pas de formation, non.
Ça n'existe pas. Donc, vous êtes obligé de créer un concept.
On crée un concept et on crée des protocoles, bien sûr.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez imaginé?
Eh bien, j'ai imaginé tout simplement que pour pouvoir faire de beaux sourcils d'abord, plutôt que de les épiler comme ça n'importe comment, on allait les dessiner, juste avant de les épiler. Donc, c'était relativement simple. Moi, j'adorais dessiner. Et je partais du principe qu'en dessinant un sourcil, ben, on savait déjà quel est le résultat on allait obtenir. Donc c'était la première des choses que j'allais appliquer.
C'est-à-dire ne pas prendre un modèle déjà fait et le poser sur la personne, mais le faire en fonction de son visage.
Exactement, ou pas de modèle du tout, parce qu'en général, c'était pas de modèle du tout. C'est on enlève des poils et on voit ce qu'on va récupérer. Là, l'idée, c'était vraiment de dessiner et d'enlever ce qui dépassait du dessin.
Alors, vous inventez ce concept, vous ouvrez une première boutique.
Oui.
D'abord, vous êtes hébergé hein, dans un magasin d'optique.
Voilà, j'avais une amie qui avait un magasin d'optique et qui me dit...
Ça tombait sous le sens, finalement.
Voilà, viens, mets ton siège là, comme ça on verra si ça va bien se passer. Et c'est ce que j'ai fait. Et au bout d'un moment, j'avais plus de clients qu'elle. Donc, elle m'a dit, si tu prends trop de place, il faut aller ailleurs. Et c'est là où, effectivement, j'ai ouvert le premier boudoir du regard.
Ouais. Oui, puis un deuxième très vite à Bastille,
voilà,
en 2012.
Voilà, 2 ans plus tard. Et c'est toujours, vous savez, c'est les opportunités qui font qu'on avance. Et j'ai une autre amie qui m'a dit, voilà Florence, moi j'aimerais bien changer de vie et je voudrais ouvrir un boudoir du regard en franchise. Et donc en 2013, puisque j'ai démarré en 2009, en 2013, on a ouvert la première franchise boudoir du regard.
Et aujourd'hui, 5 succursales, 20 franchises.
Oui.
ça,
en France et à l'étranger.
Ça marche de plus en plus. Il y a vraiment une appétence pour le regard aujourd'hui. C'est, je parlais de tendance, je parlais de mode tout à l'heure.
Alors, je ne pense pas que ce soit une mode. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a le regard des autres, on a son regard et aussi... toutes les femmes ont envie d'avoir le soin qui va leur permettre d'avoir une meilleure image. Donc, on en entendait parler tout à l'heure. Et ça, c'est international, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est toujours pareil.
Le coach, Éric Léandré.
Moi, j'avais deux questions. Une question, oui. C'est pour l'accélération, on en parlait tout à l'heure. L'idée maintenant, c'est de lever.
Oui.
D'avoir de l'argent, donc de se
c'est
mettre
vrai.
En mode start-up, c'est ça?
C'est vrai, c'est exactement ça.
Ok.
Donc, ouais, bien sûr, parce que...
Et j'ai une deuxième question qui est juste après. J'ai beaucoup aimé l'histoire de dessiner le regard.
Oui.
Et avec tous ces dessins, vous les avez gardés toutes ces années ou pas?
Non, parce qu'en fait, le dessin est éphémère. On le dessine sur chacune de nos clientes et on ferait des... Voilà.
Alors, j'ai juste un petit point. Avec de l'intelligence artificielle, vos dessins et le dessin éphémère, je crois que vous pouvez créer quelque chose de totalement nouveau et vraiment génial qui fera un pont entre hier et aujourd'hui.
Je suis d'accord avec vous et j'ai même pensé le faire effectivement sur notre application web. C'est un sujet auquel j'ai pensé parce que je viens d'informatique aussi.
Ouais, non, mais...
Donc et effectivement, vous avez raison. Je pense que ça demande un peu de développement et ça demande des fonds et c'est aussi pour ça que je peux pas le faire comme ça d'un coup de baguette magique.
Non,
c'est clair.
Ça démarre. On va le faire. Je sens qu'on va le faire. On le disait, Elisabeth, le sourcil. Aujourd'hui, le regard, c'est vraiment au centre des préoccupations.
Complètement. Depuis les années fin 90, les années 2000, hein, c'est au centre des préoccupations des Français. Et les marques de maquillage ont bien compris. Hein. Vous avez peut-être remarqué, hein, chaque marque a son crayon, à sourcils, son kit, hein, gel, palette, mascara. On compte en moyenne une quinzaine d'euros. Ça peut aller bien, bien au-delà pour dessiner ses sourcils. Et vous avez aussi d'autres instituts français hein, qui dédiés uniquement au regard, et notamment aux sourcils. Vous avez par exemple l'atelier du sourcil et ils sont présents partout en France.
On parlait justement de ce marché. Je crois qu'il y a une augmentation de 5% en 2018. Il y en avait déjà une 9% en 2017. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ce regard.
C'est l'évolution en fait hein, au niveau cosmétique. C'est vraiment aujourd'hui, en tout cas pour la beauté pure, c'est vraiment le sourcil.
Oui. Donc, et puis il y a les influenceuses aussi.
Il y a les influenceuses, il y a les stars, il y a les influenceuses. Les journalistes, mais tout le monde en fait, en vérité. C'est vrai que les gammes de maquillage veulent toutes avoir leur gamme sourcil. En revanche, elles n'ont pas toutes les compétences
les techniques, surtout.
Et les techniques. Et donc, moi, je me rends compte que les gammes sourcil ne sont pas vraiment adaptées à ce que recherche la cliente. Et surtout, en termes d'utilisation, c'est pas extra. Donc, nous aussi, on va faire notre gamme.
Voilà,
on va développer. Voilà, on est en plein développement d'une gamme de maquillage dédiée à la mise en beauté du regard. Ça va commencer par le sourcil. Ouais.
On reste ensemble et on continue à parler esthétique aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous, bien sûr, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. On vous attend, c'est la France qui bouge.
Vous êtes avec Raphaël Duchemin pour La France bouge jusqu'à 14h. Connaissez-vous des techniques modernes en ce qui concerne l'esthétisme? Avez-vous besoin de faire appel à certaines de ces innovations? Eh bien, on vous écoute au 3921, 50 centimes la minute, ou alors sur notre site europe1.fr.
Nous sommes toujours avec Éric Léandré, qui est notre coach aujourd'hui, Elisabeth Assayaguela, bien sûr, et nos invités, Germain Kemp, PDG de Cryo Évolution, Isabelle Hébérard, directrice du CODES, les cours d'esthétique à options humanitaires et sociales, et Florence Temim, PDG du Boudoir du regard. On attend évidemment toujours vos petits messages hein, sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Moi, j'ai envie de vous demander, vous nous disiez Florence, que le sourcil avait un lien social, c'est-à-dire on est vraiment dans la représentation de l'autre, c'est important
voilà.
ce qu'on voit.
On se rend compte qu'effectivement le sourcil n'a pas vraiment vocation à... C'est pas un poil vraiment de protection. C'est-à-dire qu'il y a des études hein, très poussées par des universités anglaises, américaines qui ont été faites. Et que le sourcil, ça permet de communiquer. C'est-à-dire on va être content, triste, on va bouger ses sourcils. Et quand on n'a pas de sourcils, on ne reconnaît plus les gens. Donc il y a aussi des petits tests comme ça qui ont été faits où on enlevait les sourcils de gens très connus et on essayait de reconnaître leur visage. On le reconnaissait pas alors qu'en enlevant leurs yeux et en laissant leurs sourcils, pratiquement on les reconnaissait. Donc le sourcil a vraiment un lien fort.
en fonction de la forme de son sourcil. D'ailleurs, vous voyez même Walt Disney, la méchante dans Walt Disney, elle a une certaine forme de sourcil. Donc, on est méchant, on a ce style de sourcil-là. La gentille,
en accent circonflexe,
elle a un autre sourcil. Donc, c'est un lien social. Très important le sourcil. Ouais.
C'est quelque chose qui doit vous parler, Isabelle, hein, parce que effectivement, quand on subit des traitements, on a les sourcils qui tombent. C'est important pour les femmes, pour les hommes aussi, de pouvoir reconstruire cette ligne.
Oui, tout à fait, parce que c'est important en fait de retrouver son image, de se reconnaître, de se réapproprier son visage, son corps. Donc le sourcil en fait complètement partie, comme au même titre que tout le reste en fait. Hein.
Elisabeth, on s'aperçoit que les Français sont de plus en plus intéressés par la médecine esthétique. C'est une tendance lourde aujourd'hui chez nous.
C'est assez fort hein, parce que aujourd'hui, les Français, avant de passer par la case chirurgie, ils préfèrent rechercher une solution un peu plus douce. Alors il y a des machines pour ça. On a parlé de la cryothérapie. Vous avez des technologies de body shaping, comme on dit, hein, qui a commencé déjà il y a une quinzaine d'années, et au point que le marché affiche désormais une croissance hein, avec un chiffre d'affaires là, mondial de plus de 1 million d'euros. Vous avez la radiofréquence, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des électrodes qui vont diffuser un courant de faible intensité pendant une demi-heure pour retendre la peau. Donc là, l'intérêt de cette technique, c'est qu'on peut agir sur la peau en profondeur avec le collagène. Donc tout ça, c'est avant la case chirurgie, c'est pour quand on a envie d'éviter la chirurgie esthétique. Ou alors, pour atténuer les rides, vous avez l'électro-acupuncture. Ça, c'est une technique qui stimule les muscles du visage pour prévenir les effets du vieillissement et donc retarder l'échéance d'un traitement chirurgical.
Je vois Eric sourire. Vous avez la parole, coach.
Non, j'ai fait un peu de cosmétique il y a 20 ans. Oui, j'ai lancé une marque qui a duré 2 mois et demi. Elle avait bien démarré, mais je me suis fait tuer par les règles, on va dire, sur les risques potentiels d'usage de la crème. Donc c'est quand même un métier qui est très difficile,
réglementé, oui.
Et dans lequel vous avez des géants. Et ce sont des géants qui sont européens et même français. D'ailleurs, le plus grand des géants, il est chez nous. Et moi, ma question dans tout ça, c'est dans tout ce que vous êtes en train de faire, quelque part, vous allez tous, alors, pas vraiment sur le social, mais là, vous l'utilisez. J'ai entendu tout à l'heure que cette fondation travaillait. Qu'est-ce qui se passe avec ces géants? Ils vous regardent? Ils sont intéressés par vous? Vous êtes les gens où ils ont envie d'investir ou...
Alors, réponse de Florence et de Germain, peut-être.
Moi, j'aimerais bien qu'ils me regardent avec intérêt, parce qu'on est très spécialisé, on est sur une niche, et que les géants, ils font beaucoup de choses, et ils ne sont pas hyper spécialisés sur certains domaines. Donc, certainement, ça peut être intéressant pour nous.
Même chose pour vous, Germain?
Oui, identique. On peut avoir vraiment une complémentarité qui peut être très bénéfique pour tout le monde, tout en sachant qu'en plus, la cryothérapie, c'est 100% naturel. Et on est vraiment dans les périodes
de l'UNC. L'Oréal, il faut investir.
Voilà, c'est le mot de la fin alors. Merci à tous les trois d'être venus nous parler esthétique aujourd'hui sur
Merci
Europe 1.
Merci Raphaël.
Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On reste ensemble, elle est lilloise, elle est connue pour être la plus vieille pâtisserie française. Merthe, la spécialiste de la gaufre et l'entreprise qui va bien, merci. À tout de suite.
Europe 1.
La France bouge continue avec vous, Raphaël Duchemin. Alors aujourd'hui, on se régale avec une entreprise lilloise. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
Et oui, elle va même nous transporter dans le temps. Bonjour Thierry Landron, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de... Alors, on dit maire ou Merthe? Il y a déjà un débat.
Oui, Monsieur maire était anversois et donc on doit dire Myrthe.
Ah, Myrthe.
Voilà,
bah,
mais en France, on dit maire. Oui.
On dit maire. Maire qui est depuis 1677, alors, deuxième débat, le spécialiste de la gaufre. On a les bonnes dates ou les historiens sont encore en train de chercher?
On cherche et on trouve toujours... On est même remonté avant 1677, mais en 1677, à l'adresse de la rue Escarmoise à Lille, au 25 rue Escarmoise, il y avait un boulanger.
Il y avait un apothicaire épicier, je crois.
Oui, antérieurement au boulanger, tout à fait, oui.
Et c'est lui qui va faire la demande au magistrat lillois pour pouvoir exercer cette profession.
Oui, à l'époque, il fallait demander au maire, effectivement, de la ville.
Alors, maire, c'est le nom de l'inventeur de la gaufre.
Oui.
C'est lui qui a donné son nom à la maison et qui a fait aussi, au départ en tout cas, sa renommée.
Oui, alors non, on a eu des pâtissiers très connus avant-mère. Je pense au Sieur Rollet qui a laissé ces décors incroyables qui sont aujourd'hui classés monuments historiques. Donc on a eu comme ça une succession de pâtissiers invraisemblables. Et Monsieur Maire, lui, effectivement, nous a laissé sa recette de gaufres qu'il a estampillé de son nom, et son nom est devenu ensuite une marque.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la gaufre ?
Alors, elle a un goût, bien sûr, inimitable.
C'est toujours la même recette ?
C'est toujours la même recette, depuis toujours, oui. Et avec les mêmes process de production, de fabrication. Donc, on a gardé le même principe. Et Dieu sait si on a essayé de faire autrement. On est toujours revenu à la même fabrication avec les mêmes produits.
Oui, ceux qui ne la connaissent pas peuvent venir la découvrir sur europe1.fr. Elle est avec nous dans le studio d'Europe 1, cette gaufre. Alors vous arrivez dans l'aventure, évidemment pas en 1600, hein, en 1996.
Tout à fait, oui.
Racontez-moi, comment un expert comptable décide de se lancer dans cette aventure-là ?
Alors, c'est, l'expertise comptable, c'est bien sûr un très beau métier. En tout cas, c'est un outil formidable. Ça n'a rien à voir. Mais je vais vous faire une petite confidence. Moi, j'ai fait l'Institut d'expertise comptable parce que mes parents pensaient que c'était sans doute mieux que l'hôtellerie à l'époque. Et l'hôtellerie, c'était pourtant le métier que j'aurais toujours voulu faire. Et donc, j'ai travaillé 5 ans, effectivement, en cabinet. Et puis, au bout de 5 ans, j'ai eu cette opportunité de rentrer dans cette belle maison de pâtisserie. Voilà, c'est sans doute un métier beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympa.
Métier et maison qui prospère, hein, puisque vous avez ouvert de nouvelles boutiques. Il y en a à Paris, il y en a à Bruxelles, il y en a au Japon aussi. C'est eux, je crois, les Japonais qui sont venus vous demander de vous installer là-bas ?
Oui, les Japonais adorent la pâtisserie française. Alors, il n'y a pas que d'ailleurs. Hein. Globalement, le monde entier adore nos pâtisseries. Mais c'est vrai que les Japonais, ils sont très très intéressés, passionnés par la pâtisserie. D'ailleurs, il y a énormément de pâtissiers français au Japon.
Que dit notre coach de cette aventure lilloise ?
Moi, c'est toujours aussi incroyable. Et le côté internet, donc de quelque chose qui date de 1677, la promotion, vous la faites comment ? Vous faites connaître comment ? Bon, première vue, vous êtes connu par tout le monde autour de la table, à part moi. Malheureusement, je sors de mon village, donc voilà. J'ai toujours une petite difficulté à connaître les choses vraiment très bonnes.
Sortie de Corse.
Et donc, oui, exactement. Donc, vous faites ça comment ?
Alors, c'est vrai ce que vous dites, c'est d'abord intergénérationnel. Mm-hmm. C'est vrai, on a cette chance d'avoir des familles qui viennent chez nous à Lille et qui nous disent, si on vient chez vous, c'est parce que nos grands-mères nous emmenaient chez vous déjà à l'époque. Donc il y a une espèce de piège affectif qui fait que ça fonctionne. C'est vrai qu'Internet a aidé forcément à notre rayonnement. Alors on a un site marchand, un site e-commerce, mais qui représente finalement assez peu dans nos activités. On vient pour l'univers. Voilà, on vient pour le plaisir, et c'est vrai qu'on a toujours probablement un peu de difficulté à
faire
comprendre
connaître
cet univers à travers un site sur Internet.
C'est amusant parce que rien n'a changé, vous disiez la recette, l'endroit non plus, hein, on est toujours au même endroit, dans la même rue, avec l'usine derrière, les ateliers.
Tout à fait, oui.
Combien de personnes qui fabriquent ?
Alors, qui fabrique, je ne sais pas, on doit être 70 à fabriquer.
Et 120
on fabrique
en tout,
des gaufres,
hein,
mais on fabrique aussi des pâtisseries, du chocolat, des confiseries, on fait beaucoup, beaucoup de choses. On a gardé quasiment tous nos métiers depuis 4 siècles, sauf celui de distillateur. Mais donc, on a accumulé un certain nombre de savoir-faire. C'est ce qui fait le bonheur de cette entreprise, c'est qu'effectivement, on a des experts. Voilà, on a transmis à ces jeunes notre expertise, nos savoir-faire qu'ils ont gardé, parfois un peu amélioré d'ailleurs.
Quel est le produit que vous préférez, la gaufre, nature, l'originelle ?
La gaufre à la vanille est iconique, chez Mère, bien sûr, mais on renonce à aucun de nos produits, c'est un peu selon la saison. On va
mais
bientôt
c'est votre
lancer
Madeleine de Proust.
La gamme, c'est la Madeleine de Proust incontournable, oui.
Merci d'être venu nous faire découvrir cette
Merci
belle maison. 1677, et probablement même avant, c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Merci.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Un site pour faire du shopping en ligne tout en donnant à des associations, mais sans que ça vous coûte quoi que ce soit. C'est la solution aujourd'hui et c'est Prizl.
Jusqu'à 14h, c'est La France Bouge avec vous, Raphaël Duchemin. Et alors, comme il est 13h50, il est temps de s'intéresser à une start-up très généreuse dans la solution du jour.
Eh oui, faire des achats tout en donnant à des associations de son choix, c'est ce que propose notre solution. Elisabeth, elle s'appelle Prizzle. C'est du don gratuit pour du shopping solidaire.
Oui, Prizzle a été créée il y a 2 ans à Montpellier. Elle permet aux particuliers de faire des achats en ligne. Et pendant que vous faites des achats, eh bien, vous donnez aux associations de votre choix. Alors, on sait qu'il existe le don à l'arrondi, ça vous est peut-être arrivé, vous êtes sur le point de payer avec votre carte bancaire et le terminal vous propose d'arrondir votre somme. Les centimes vont à une association. Là, le principe, c'est que vous vous inscrivez sur prizzle.com, vous choisissez l'association, puis rien ne change, vous faites vos achats en ligne au même prix que d'habitude et ce sont les sites de e-commerce partenaires de Prizzle qui reverse un pourcentage du montant dépensé. Il y a plus d'une centaine d'associations qui soutiennent Prizzle sur plus de 1000 sites marchands.
Bonjour Marie Monziol.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Prizzle. Comment on se lance justement dans ce qu'on peut appeler l'entrepreneuriat solidaire ?
C'est une très bonne question parce que nous, on a mis du temps, on était entrepreneurs auparavant. Et il se trouve qu'en 2015, il y a eu un pic de catastrophes naturelles et de crises humanitaires qui a fait que on a eu envie de passer à l'action. Donc, quand je dis on, c'est avec le cofondateur de Prizzle, Guillaume Alabert. On a commencé à rencontrer des associations à ce moment-là et elles nous ont toutes expliqué à quel point elles avaient besoin du don des particuliers parce que les situations d'urgence se multiplient sur le terrain et elles manquent de ressources. Donc, elles ont besoin du don de chacun d'entre nous. Par contre, on n'a pas forcément les moyens de donner, on n'a pas forcément les moyens de soutenir plusieurs associations. Et l'année dernière, le don, il a baissé en France.
Oui.
Donc, on a creusé cette idée en se demandant comment est-ce qu'on pourrait soutenir une association sans entamer le budget du foyer. On a creusé l'idée du don gratuit. Comme on connaissait bien le web, nous, on venait du web. On connaissait bien le marché du e-commerce. On sait à quel point il se porte bien. L'année dernière, 90 milliards d'euros ont été dépensés en ligne en France. C'est assez colossal. Donc, on s'est dit, si on pouvait reverser une partie de ce qui est dépensé en ligne à des associations, ce serait juste extraordinaire. Donc c'est ce qu'on a fait grâce aux 1000 sites e-commerce qui nous ont suivis, qui sont des sites de drive, achat de vêtements, chaussures, tous les sites de consommation courante sur lesquels les Français vont acheter. Ils reversent aujourd'hui donc entre 1 et 20% de ce qui est dépensé chez eux pour qu'on puisse soutenir une association sur Prizzle.
Alors comment on choisit l'association et comment on choisit aussi le pourcentage que l'on souhaite donner au moment des achats ?
Alors, en ce qui concerne le pourcentage, c'est le site e-commerce qui détermine le pourcentage qu'il va reverser.
Alors c'est combien ?
En moyenne, c'est 5%. Donc, c'est assez important. Si vous achetez des chaussures pour vos enfants, que vous dépensez 100 euros en ligne, donc c'est 5 euros qui iront à l'association de votre choix. Et 5 euros par 5 euros, tout au long de vos achats de l'année, ça peut représenter beaucoup pour une association qui en a besoin. Et en ce qui concerne les associations, aujourd'hui, donc, il y a plus de 150 associations que vous pouvez soutenir sur Prizzle. Ce sont des associations qui travaillent sur des secteurs différents. Elles ont toutes des missions différentes. Elles travaillent auprès des enfants malades, auprès des sans-abri. Elles travaillent sur la préservation de l'environnement. Il y a d'ailleurs des associations que vous avez reçues, je crois, ici. Un petit bagage d'amour ou la cravate solidaire. Donc, il y a forcément une association qui va vous toucher et que vous pourrez choisir de soutenir par vos achats en ligne.
Donc, ça veut dire que le commerçant vous verse à vous la somme et c'est vous ensuite qui allez redistribuer aux associations ou ils sont directement en contact avec les associations ?
Non, c'est les sites marchands reversent via Prizzle et ensuite, c'est nous qui affectons le montant reversé à l'association qui est soutenue par l'acheteur.
Que dit notre coach ?
Vous faites quoi des données de vos utilisateurs ?
Alors, on est né en même temps que la RGPD, parce que même si on a créé la société il y a 2 ans, on est né très exactement en mars de l'année dernière. Donc, on respecte évidemment les données. On demande d'ailleurs seulement une adresse email aux personnes qui s'inscrivent sur Prizzle.
Vous êtes une SAS ou vous êtes
On est une SAS de l'économie sociale et solidaire.
D'accord, parfait.
Donc
et dernière chose, vous voulez avoir accès à des millions de gens très rapidement ?
Exactement.
Donc bon, la semaine prochaine, on lance Quant Causes pour s'occuper des associations. On vous expliquera tout ça et on va vous mettre sur le shopping parce que je trouve ça génial et je vous avais loupé.
Merci beaucoup.
Heureusement qu'on est là.
Merci encore.
Juste
comme d'hab.
Je voulais vous demander, on peut choisir plusieurs associations en même temps ?
Alors, à l'inscription, on choisit une association. On a cherché à simplifier au maximum l'utilisation de Prizzle parce qu'aujourd'hui, les associations ont besoin de nous tous et ça prend juste 10 secondes pour s'inscrire sur Prizzle. Et ensuite, vous n'avez plus rien à faire. Vos achats en ligne, ils reversent à l'association de votre choix.
Avec un objectif, je crois, Elisabeth.
Je crois que vous comptez reverser 100 000 euros aux associations partenaires là, pour cette année, c'est ça?
Oui,
je pense qu'on pourrait. Eric.
S'il y a ne serait-ce qu'un tiers des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui qui s'inscrivent, ça veut dire que le mois prochain, on fait 100 000 euros pour les associations, rien que avec les auditeurs qui écoutent cette émission.
Eh bien, on prend le pari. Merci d'être venu nous parler de Prizel.
Merci
à Eric qui était notre coach aujourd'hui. On se retrouve lundi, Elisabeth.
Raphaël.
On parlera innovation pour nos médicaments. Nous serons le lendemain de la Journée mondiale de la santé.
Merci Raphaël Duchemin. Dans un instant, Christophe Ondelat s'en sera jusqu'à 15h pour vous raconter l'histoire d'Apollo 11. Cette mission incroyable lancée le 16 juillet 1969 avec trois astronautes bien connus. Pour revenir avec Christophe Ondelat sur ce grand bond pour l'humanité, le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, Philippe Hénaré-Ross. Alors restez avec nous, il est 13h55 sur Europe 1. À l'actualité de ce 5 avril, c'est avec vous Raphaël Duchemin, bonjour.
Bonjour, Emmanuel Macron crée un comité d'historiens pour étudier toutes les archives françaises sur le génocide au Rwanda qui avait fait 800 000 morts, principalement des Tutsis, annonce de l'Élysée qui promet aussi de renforcer les moyens pour juger les génocidaires présumés 25 ans après les faits. Christophe Castaner dit regretter la censure par le Conseil constitutionnel de l'article phare de la loi anticasseur que le gouvernement voulait mettre en place. Je prends acte, a-t-il dit, le ministre de l'Intérieur qui a estimé aussi que les ONG chargées de secourir les migrants en Méditerranée ont pu se faire complices des passeurs. Il les appelle à avoir une attitude responsable. Un meeting commun en Italie, ce sera à Milan le 18 mai prochain. C'est l'annonce faite ce matin par Marine Le Pen et Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien et la présidente du Rassemblement National se sont vus à Paris avant les prochaines élections européennes. Le Brexit avec non pas un mais deux calendriers cette fois sur la table. Ce matin, Theresa May a demandé un report jusqu'au 30 juin. Le président du Conseil européen propose lui un report flexible pouvant aller jusqu'à un an. Pour l'Élysée, la demande de report est prématurée faute d'un plan clair. Et puis, il y a du football ce soir avec un match avancé comptant pour la 31e journée de Ligue 1. C'est Marseille qui se déplace à Bordeaux. L'OM qui devra faire mentir les statistiques puisque les Olympiens n'ont plus gagné chez les Girondins depuis 42 ans.
Merci Raphaël. Passez une belle journée avec Europe 1. Il est 14h et tout de suite c'est Christophe Ondelat.